Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast La Pause Rédac. Je suis Lucie Rondelet, créatrice de formation rédactionweb.com et du média cellequi-ose.com. Je pars aujourd'hui à la rencontre de Julie Künzli, ancienne juriste reconvertie joyeusement à la rédaction web. Julie n'a que 27 ans, mais vous le verrez, ses journées sont si remplies qu'on pourrait croire qu'elle a vécu le double de ses années de vie. Je vous retrouve tout de suite, mais avant cela, je vous invite vivement à noter et à commenter ce podcast pour m'encourager à continuer et surtout le faire exister. Je vous remercie chaleureusement. Bonjour Julie.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast La Pause Rédac.
Ah, mais merci beaucoup.
On se connaît un petit peu. J'ai eu la chance de te rencontrer en France. Et donc, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous raconter ce que tu veux sur ta vie de rédactrice web, ta vie d'avant, tes projets et tout ça. Mais avant tout, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
Alors, moi, c'est Julie, j'ai 27 ans. Et je suis une ex-juriste et je suis rédactrice web maintenant depuis presque 2 ans. Je vis sur la côte d'Opale, alors dans le Pas-de-Calais, pas très loin de l'Angleterre. Et je vis avec mon conjoint et mes 2 chiens. J'ai fait 5 ans d'études de droit. J'ai fait une licence droit privé et un master de droit des affaires. Je ne savais pas ce que je voulais faire, je savais juste que je ne voulais pas être avocate. Ça, c'était clair, net et précis. La robe, ça ne me tentait pas. Être juge non plus. Donc, je suis devenue juriste d'entreprise. J'ai commencé en tant que juriste en multinationale et je suis partie au bout de 4 mois. Je suis partie en cabinet, j'avais fait beaucoup de cabinets. Et ensuite, je suis partie dans autre chose. Je suis partie en pénal, donc pénal sur le terrain, dans une association socio-judiciaire qui traite plutôt de... des actes présententiels, donc contrôle judiciaire, enquête de personnalité, etc. Donc vraiment, là, c'était du terrain avec les gens dans les prisons, chez les gens mis en examen, dans les points rencontres parents-enfants. Je faisais des stages pour les mineurs délinquants aussi. Donc, j'ai bien aimé. Je ne veux pas mentir, j'ai autant aimé mon métier que je l'ai détesté. Mais à un moment donné, c'était plus vivable. Alors, je me suis lancée dans la rédaction web. J'avais déjà découvert ça bien avant que j'entre au SCJE. Je crois que c'était un truc tout bête. Hein. Mais je crois que je cherchais une astuce en typo pour écrire un rapport. Et j'étais tombée sur ton blog à l'époque. J'ai trouvé ça trop bien. Je suis trop bien. Alors, j'avais été voir la chaîne YouTube et tout. Alors, j'en avais parlé à ma mère. Et j'étais trouillarde, moi, par contre. Ça m'intéressait, mais je n'osais pas passer le cap. Et j'ai laissé tomber. Et je suis revenue dessus environ un an et demi après. Toujours la même idée de faire cette formation que mes parents m'ont offert, d'ailleurs. Donc, je les remercie beaucoup. Parce que ils sentaient que... Enfin, parce qu'en fait, je préfère, quand j'ai quitté le SCJE, l'association, je suis partie en cabinet à nouveau, donc à Boulogne-sur-Mer, et je m'ennuyais comme un rapport, c'est un truc de dingue. Je m'ennuyais, j'avais l'impression que... En fait, on apprenait, et après, t'apprends une fois, t'apprends plus. Et tu as facilement aussi cette culture du « on fait comme ça et on fait comme ça depuis toujours ». Alors moi, ça n'allait pas du tout. Donc, je suis partie, j'ai quitté mon job, et j'ai fait la formation.
D'accord, t'as fait la formation à quel moment et quelle formule tu as choisi ?
Je l'ai fait, je crois que c'était en... Alors, on est en 2022, donc ça devait être été 2019 ou 2020. Je ne sais plus. J'ai commencé à ce moment-là, j'étais encore employée. J'étais encore employée en 39 heures semaine et j'ai terminé la formation en étant libre. J'ai choisi la formule liberté, pas qu'accompagnement, parce que quand j'ai voulu m'inscrire, la origami était bouclée depuis un moment et c'était pas possible et je voulais aller vite. Donc j'ai choisi celle-là et j'ai choisi le pas qu'accompagnement parce que je trouvais que c'était trop bien. Moi, je voulais avoir mes exercices corrigés et tout. Je trouvais que c'était super important parce que c'était un nouveau métier malgré tout. C'était un tout nouveau... une toute nouvelle profession. Donc j'avais une dame au téléphone et j'ai pris le pack accompagnement.
Tu as commencé à travailler combien de temps après le début ou la fin de la formation ?
Alors, j'ai terminé la formation en janvier et je me suis installée en février et j'ai démarré l'activité en mars.
Waouh !
Voilà, direct.
Aujourd'hui, tu vis de la rédaction web ?
Oui, complètement. Depuis pas mal de temps, je pense que les premiers mois, j'ai bossé sur la fidélisation client, plus que sur le chiffre d'affaires. Je cherchais vraiment les entreprises avec lesquelles j'avais envie de travailler, celles qui m'inspiraient un minimum. Et j'entrais en contact et j'y allais à mon rythme. Souvent, ce que je faisais, c'est que le premier article, comme j'étais, tu vois, j'étais toute neuve dans la rédaction web, donc j'avais quelques doutes, je le proposais gratuitement. Ensuite, le second, je le faisais à un prix, tu sais, plutôt bas. Et le troisième, si ça me convenait toujours, on enchaînait avec une vraie collaboration avec le client. Et ça m'a pris quelques mois. Je pense que j'ai réussi à dégager un SMIC au bout de 4 mois. 4-5
D'accord.
mois, un truc comme ça, à peine. Et en vivre vraiment, ouais, 8 mois peut-être. Enfin, en vivre confortablement du moins, 8 mois, je dirais. Donc ça, c'est plutôt, je pense que c'est à peu près correct. Correct. Mais je ne me suis pas pressée.
Tu m'as dit que tes parents t'ont offert la formation et alors ça
Ouais.
m'interpelle parce que tu as fait des études de droit, donc des études assez élitistes pour la plupart des gens. Et tes parents t'ont tout de même acheté une formation en ligne pour devenir rédactrice web, donc travailler de chez toi. J'imagine qu'ils sont très modernes.
Il faut savoir que moi, mes parents, ils ont travaillé tous les deux à l'âge de 14 ans. Ils n'ont pas eu la chance de faire des études. Ils ont directement été dans le monde du travail. Ils travaillent ensemble, mes parents, depuis toujours. Depuis fou. Je n'ai même pas né qu'ils travaillaient déjà ensemble. Ils sont entrepreneurs. Ils ont eu des restaurants, des pizzerias, etc. Et l'important pour eux, même s'ils étaient fiers que je sois juriste, hein, mon père, il répétait sur tous les toits à tout le monde. C'était génial. Il voulait que je sois heureuse au travail, en fait. Et ça, c'était, ils le sentaient quand je les avais au téléphone, parce que mes parents sont à 170 km de chez moi. Ils sentaient que bah, je fanais. Je pense que c'est le terme approprié. J'étais en train de faner tellement je m'ennuyais. J'avais l'impression de mourir d'ennui, et ça, c'est dramatique. J'ai l'impression que c'est vraiment le gros problème des entreprises où je suis allée, c'est que, enfin, je pense, au début, je pensais que les entreprises avaient un problème, mais je pense que c'est moi qui avais un souci dans cette histoire et j'arrivais pas à m'adapter. Et quand ils ont senti que ça n'allait pas, ils ont dit, allez, ça te tente, on va t'aider à trouver quelque chose qui te plaît. Et maintenant, ils sont ravis. Parce que, bon, ils comprennent pas vraiment tout ce que je fais. Toujours pas. J'essaie, franchement,
Alors, tu sais
j'essaie,
que
mais.
personne ne comprend ce qu'on fait à part nous.
Oui,
Tu as
mon
remarqué?
père, Oui. C'est assez rigolo quand je parle à mes parents parce que j'ai toujours envie de rire. Ma mère, elle s'est allée que sur le bon coin sur l'ordinateur et elle a même pas de téléphone portable. Et mon père, il sait faire quelques trucs, mais souvent, il m'appelle pour que je règle ces soucis informatiques. Mais ils ont cru, en fait, ils ont cru en mon projet. Enfin, j'étais ravie, hein. J'étais ravie parce que c'était une super opportunité pour moi. Et maintenant, bah, je les remercie 1000 fois parce qu'ils ont, ils sont, ils ont, ils ont pas, ils sont passés au-dessus de leurs préjugés. Parce qu'au début, je dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu vas pouvoir vivre avec ça? Est-ce que tu vas pouvoir payer ton loyer? Parce qu'il faut rester aussi dans le pratique. Ben moi, j'étais là, je dis, oui, je vais y arriver. Au début, j'en étais pas totalement sûre, mais j'étais oui. Et de ce fait-là, ils ont mené l'aventure avec moi, en fait.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça?
Ben, ils sont fiers. Ils sont très contents parce que j'ai jamais aussi bien gagné ma vie. Pour être honnête, en tant que juriste, je gagnais beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Je fais ce que je veux aussi. Je peux aller les voir quand j'ai envie. Donc, ça, c'est, tu vois, c'est plutôt pratique, la liberté du freelance. J'organise mes journées selon le temps. Donc, ça aussi, c'est super bien. Et mes parents sont vraiment contents pour moi parce que j'étais le vilain petit canard un petit peu. J'étais la seule qui n'avait pas sauté le pas de l'entrepreneuriat, en fait.
Ah bon?
Bah oui, parce que ma sœur s'était installée à un moment donné aussi. Mes parents l'ont toujours été et moi j'étais la gentille petite salariée. J'avais pas rejoint. J'avais vu en fait au fur et à mesure du temps que c'était énormément de risques parce que à la maison on a vécu une liquidation judiciaire en fait. Et j'ai vu quand j'étais jeune les conséquences que ça pouvait impliquer tant sur le plan matériel que sur le plan moral en fait. C'est la déprime, hein, faut dire ce qui est. Donc j'avais un petit peu peur, mais plus maintenant. Maintenant, je vis une vie vraiment très, très agréable et avec beaucoup de liberté, ce qu'on n'a pas forcément toujours en tant que salarié. Bien sûr, parfois le salariat me manque un petit peu. Par exemple, quand j'arrive pas à être créative et que j'ai envie d'être en vacances et que je peux pas être en vacances, je me dis, oh mince, il y avait quand même quelques avantages, mais ça n'arrive pas très souvent pour être honnête.
Justement, quand tu es salarié, on t'impose un petit peu tes vacances et tu as un nombre limité de vacances. Donc, pour le coup, tu choisis pas vraiment. En tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir choisi mes vacances.
Alors, moi, dans un de mes derniers emplois, c'était un petit peu particulier. Quand j'étais en association socio-judiciaire, j'avais une grande liberté. Je faisais mon emploi du temps comme je le voulais. Donc, admettons, si j'avais besoin, si j'étais en dé parce que j'étais toujours en déplacement, en fait, sur tous les Hauts-de-France. Donc, si j'avais besoin d'aller dormir 1 heure entre 2 déplacements, j'y allais. J'avais mes congés payés, comme tous les salariés, mais en plus de ça, j'avais des congés spécifiques en plus. Donc, j'avais énormément de vacances. Vraiment, t'es mal payé, mais t'as beaucoup de vacances, pour être honnête. Vraiment, vraiment. Je sais plus c'était combien. Je me demande si c'était pas 2 jours en plus par mois que tu cumulais quelque chose de ce genre-là. Donc, c'était plutôt pas mal. Et c'est aussi ce travail-là qui m'a, je pense, donné le courage de devenir indépendante. Parce que j'avais commencé à apprendre à m'organiser toute seule, à gérer mon emploi du temps toute seule. Je faisais tout moi-même. C'était comme si j'avais ma propre activité. J'avais jamais ma chef qui allait regarder mon emploi du temps, me dire ça, tu vas faire ça aujourd'hui, ça, tu vas faire ça. Jamais. Je faisais comme bon me semblait. Et je pense que ça a été une bonne préparation pour le freelancing.
Quel rapport tu as à ton travail en fait actuellement?
Moi, j'ai du mal à décrocher. Clairement, je ne suis pas quelqu'un. J'aime bien travailler. Donc, c'est vrai que les vacances sont un petit peu subsidiaires, mais plus que les vacances, c'est le stress en fait, qui est parfois dur à gérer. Tu es tout seul, tu comptes sur toi-même. Alors, c'est pour ça que quand tu n'es pas créatif, tu ne peux pas compter sur ton collègue pour te filer un coup de main, tu es tout seul. C'est ça que je trouve assez difficile. Et quand je parle de vacances, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai vachement mal à décrocher. J'aime bien bosser. Je me suis toujours épanouie dans le travail en général. J'ai besoin d'avoir une activité professionnelle. Je ne saurais pas être 2 mois en vacances. Ça, c'est pas possible. C'est pas envisageable pour moi. La première année, forcément, non, j'ai pas pris de vacances parce qu'il y avait du boulot. Là, j'ai pris 1 semaine et demie. Je vais reprendre quelques jours en août, sans doute. Mais j'ai besoin de garder un lien. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai besoin de garder un lien à l'activité. Déconnecter complètement pour l'instant, j'en suis pas capable.
Ça t'apporte quoi et pourquoi tu as ce besoin? Où tu prends du plaisir en fait dans le travail?
Comment expliquer ça? C'est, je sais pas, je suis bonne dans ce que je fais en fait, et je sais agréable d'avoir ce genre de rétribution. Moi, j'ai besoin de mener des projets. Chaque fois, avec mon conjoint, en rigolant, on se le dit. Si j'étais rentière, mais je serais dans l'associatif, je peux pas rester sans rien faire. J'ai besoin de me rendre utile et je bichonne mes clients, etc. Et j'aime bien ça en fait. J'aime bien ce rapport. J'ai une vie professionnelle et je trouve ça extrêmement agréable. Et je sais pas, c'est valorisant en fait de se sentir utile.
Alors, t'as pas
Enfin,
l'impression de passer à côté de ta vie?
mais j'ai une vie aussi à côté, mais j'ai besoin, je peux pas avoir des comment dire, je peux pas, j'ai vraiment une vie à côté, hein, mais je peux pas avoir des trous dans mon emploi du temps, ça c'est pas envisageable. Alors j'ai pas d'enfant, mais j'ai des journées ultra remplies. Enfin, dès 7 h du matin, je suis déjà dehors, je fais mes 8 bornes, ensuite je bosse, ensuite, bon allez, je mange quand même, ensuite je rebosse. Ensuite, je vais à la musculation et ensuite, je repars faire des bornes avec mes chiens. C'est assez rempli. J'aime bien.
Pourquoi cette peur du vide, Julie?
C'est une excellente question. Je sais pas. Je suis toujours occupée. Et quand les gens disent je m'ennuie, moi, je comprends pas en fait. Parce que moi, si je m'ennuie, je fais le ménage, je lis des livres, j'écoute des émissions, je vais regarder Netflix. Je vais aller dehors, me promener, je m'ennuie pas. Je suis pas quelqu'un qui supporte ça en fait, ne rien faire, ça c'est pas possible.
Tu sais, Julie, je te pose toutes ces questions parce que tu es mon double.
Ah,
Et
bah écoute, c'est agréable.
c'est des questions qu'on me pose tellement souvent. Pourquoi tu travailles autant? Je réponds souvent, on ne demande pas à un artiste ou à un chanteur pourquoi tu chantes autant ou quoi. Nous, c'est une passion. Certes, c'est bizarre de se passionner pour des algorithmes et la Search Console et l'écriture digitale et le marketing éthique. Mais en tout cas, moi, vraiment, ça me passionne et comme toi, il n'y a pas de vide dans ma vie dans le sens où je fais du sport, j'écoute un podcast, je mange, je regarde un documentaire. Et c'est vrai que je m'arrête jamais. Et quand je me relaxe, pour me relaxer, je fais du piano, de la guitare, je chante. C'est vrai qu'il y a très peu de vide. Et c'est une question qu'on m'a posée tellement de fois et je n'ai pas la réponse. Si certaines personnes qui nous écoutent, on a vu, enfin, pour ma part, j'ai vu beaucoup de psy. Je ne sais pas toi, Julie, mais en tout cas, je n'ai pas
Non.
la réponse. Et je ne sais pas si
Non, mais.
surtout si on a besoin d'avoir une réponse à cette question.
Mais
Est-ce
en
que
fait,
c'est
si tu
mal?
es heureux, en fait, je vois pas où est le problème. Moi, je suis
Ça
bien
va.
comme ça. Enfin, je sais pas, je suis
Et
heureuse dans ma vie, en fait. Donc, ouais, après, comment dire. Moi, j'ai toujours vu mes parents travailler énormément. Les vacances chez nous, ça a été très peu parce qu'ils étaient toujours en train d'investir dans leurs affaires et quand ils n'investissaient pas, ben, en fait, ils étaient en train de se renseigner sur un autre projet.
ouais.
Et puis, on n'avait rien sans rien chez nous. Par exemple, tu vois, quand j'étais petite, je me souviens de ça, c'est rigolo, mais si je voulais, j'avais envie de lire un livre et tu vois, j'avais pas d'argent de poche, moi, ça se faisait pas chez moi. Si mon père me l'achetait, bah, du coup, je devais l'aider à faire un papillon en charcuterie, tu sais, ce genre de choses quand il a son activité de traiteur. Et de ce fait-là, c'est naturel chez moi de travailler en fait. J'ai travaillé toutes mes études. J'ai commencé à travailler à 17 ans dans la restauration et ensuite j'avais un travail l'année scolaire et j'alternais avec un autre emploi pour les vacances d'été. Donc en fait, j'ai pas chômé pendant mes études non plus. Donc comme je te dis, pour moi, c'est quelque chose de très très naturel d'aller travailler. Je pas, moi, je, enfin, j'y vais pas en regardant mes chaussures et en pleurnichant. Je suis contente d'aller bosser.
Oui, le lundi, que ce soit dimanche
Oh
soir
non.
ou lundi, ça nous est égal. Et pareil, on a été élevé avec cette quête du bonheur. Sois heureuse, ma fille, c'est tout ce qui nous
C'est
importe.
ça.
Et c'est vrai que du coup, peut-être que le fait d'être libéré du stress familial et de ne pas avoir ce stress sur les épaules, c'est quelque chose de peut-être important. Je le dis pour les personnes qui nous écoutent et on verra avec toutes ces interviews ce que ça va donner, mais ça m'intéresse vraiment de voir les profils des différents rédacteurs et rédactrices web. Alors justement, donc toi, comme Patricia, notre dernière invitée, tu as la tchatche.
Carrément. À ce niveau-là, si, ça va. J'ai tout ce qui est prospection, contact client et tout, j'ai pas de difficultés. J'ai eu d'autres difficultés, faut pas penser. Hein. J'ai eu plein de difficultés, surtout au début. Mais ça, en fait, j'ai du culot. Je me dis qu'au pire des cas, bah, ça marche pas. Tant pis. Je vais pas attendre. Enfin, au début, c'est vrai que j'ai eu des petites appréhensions sur la prospection les premiers jours, mais à un moment donné, tu te dis, bon, je veux pas manger des pâtes toute ma vie. Donc, tu y vas, tu fonces et puis. Tu fonces et de toute façon, il ne peut rien t'arriver. Souvent, là, tu es derrière un écran et même quand tu fais de la prospection en direct par un réseau, c'est agréable, tu discutes. Tu n'as pas besoin d'être dans une démarche forcément commerciale. Moi, je privilégie vachement, tu sais, le lien humain. On discute de plein de sujets avec mes clients. Souvent, quand on a commencé à discuter, ce n'était pas forcément en relation avec la rédaction web. Je pense notamment à mon client qui est dans la mastication canine. Forcément, les premières échanges, ça a été sur nos animaux respectifs. Et de fil en aiguille, tu discutes, tu peux apporter quelque chose au site web. Parce qu'il y a du travail. Il y en a du travail dans la rédaction. Il y en a plein. Dans plein de domaines différents. Donc, je pense vraiment qu'il y en a pour tout le monde en plus. Donc, prospecter, c'est qu'une petite partie... enfin, du travail. Et ensuite, avec ton réseau, le bouche à oreille, si tu fais du bon boulot... Tu n'as plus besoin vraiment de prospecter par la suite. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne prospecte plus.
Toi, tes sujets de prédilection aujourd'hui, c'est quoi ? Tu écris pour plein de clients avec des sujets différents ou bien tu t'es spécialisée ?
Alors, j'ai quand même une spécialité. Moi, je fais beaucoup de contenu juridique, mais pour les entreprises. C'est-à-dire que je ne prends pas les avocats, je ne prends pas les notaires, je ne prends pas les huissiers généralement. Sauf si vraiment on a un super bon feeling, parce que c'est ce qui prime chez moi. C'est si je sens déjà au premier abord que ça coince, je laisse tomber tout de suite. Ça m'a desservi au début en allant contre ses premières impressions et je l'ai payé le prix fort à chaque fois. Donc, ouais, généralement, je fais beaucoup de juridique pour les entreprises du RH et de la formation professionnelle. Beaucoup de sujets techniques. Après, j'ai mes petits sujets doudous aussi. Je prends quelques trucs sur le chien. Mais j'en prends pas énormément d'articles ou de rédactions sur le chien parce que généralement, au niveau des valeurs, ça... C'est très compliqué. Quand c'est un sujet qui te tient très à cœur, tu es exigeant et tu n'as pas forcément les mêmes valeurs que les entreprises qui sont sur le marché, en fait, hein, tout simplement. Mais oui, globalement, quand même, beaucoup de contenu technique et j'aimerais bien là me former sur la crypto-monnaie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de découvrir un petit peu et pourquoi pas essayer d'écrire sur cette thématique-là.
Ah, alors justement, on a... un gros site de crypto-monnaie qui nous prend régulièrement des rédactrices. Je ne vais pas dire des rédacteurs parce qu'il n'y a eu que des femmes. Donc, je pourrais te passer le contact si une fois que tu seras bien informée.
Oui, oui, parce qu'il faut vraiment que j'étudie. Je dois acheter le livre de Crypto Toast, etc. Je n'ai pas encore eu le temps de... Et là, j'en ai acheté un sur la blockchain. Donc, il faut vraiment avoir le temps de s'y coller. Sinon, tu ne comprends rien. Donc, ce n'est pas la peine.
Donc, toi, tu connais pas mal la communauté FRW. Ça fait un peu secte quand je dis ça. Tu connais pas mal les élèves de formation rédaction web, donc l'organisme que j'ai créé pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas qui je suis. Est-ce que tu as repéré les personnes? Alors, on n'a pas beaucoup de gens qui râlent sur le groupe Facebook ou se plaignent. On en a très, 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 très peu. Mais on ne va pas parler de gens qui se plaignent, mais des gens qui galèrent juste. D'après toi, est-ce que tu as reconnu certains profils? Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux personnes qui nous écoutent, qui se demandent si elles ont le profil pour se lancer dans la rédaction web et quelles sont leurs chances de réussir dans ce domaine? Parce que c'est ça les questions qui sont posées.
Alors, en fait, tout le monde peut réussir en rédaction web. Tout le monde, il n'y a pas. En plus, on a tous un background différent. Tu vois, moi, j'étais juriste. Il y en a certains qui ont été infirmières, d'autres qui ont travaillé dans le BTP. Donc, en plus, tu as des connaissances à apporter dans certains domaines. Même si tu ne veux pas, enfin, admettons, tu ne veux pas travailler dedans, il n'y a pas de problème. Tu peux te mettre en développement personnel ou autre. Il y en a pour tout le monde et tout le monde peut réussir. Après, au niveau des profils, les timides, les gens qui sont très introvertis, souvent se posent beaucoup trop de questions. Surtout sur la prospection, c'est ce qui revient tout le temps quand on m'envoie des messages privés. Hein. Comment est-ce que tu fais pour prospecter? Et si on me dit non, si on me dit non, en fait, c'est pas grave. Il faut se dire qu'il n'y a pas mort d'homme si on te dit non. C'est pas grave. Toutes les collaborations, tous les messages que tu vas envoyer, toutes les prospections que tu vas effectuer, elles ne vont pas mener à une collaboration. Il n'y aurait pas assez d'heures dans une journée, de toute façon, ce ne serait pas possible. Mais je pense que c'est ça. Il faut passer au-delà du fait d'être timide, du fait d'avoir un petit peu peur de l'autre, etc. Il faut avoir juste envie de créer du lien, de donner aussi. Le réseau, c'est ça, hein. Il faut que tu donnes aussi. Par exemple, ce que je fais régulièrement, c'est que quand on me demande d'entamer une collaboration et que je ne peux pas ou que je ne veux pas prendre le sujet, je les renvoie vers un autre rédacteur FRW. Et le prospect est forcément content. Tu vois, tu le soignes, il n'y a plus besoin de faire sa recherche, etc. Donc, c'est aussi du don. Et je pense vraiment qu'il faut avoir un peu de culot. C'est ça, en fait. Il faut... Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes personnalités. Hein. Tu as des timides, des gens qui foncent, des gens qui vont beaucoup douter, qui vont se remettre en question. Il y a beaucoup de problèmes aussi de légitimité. C'est ce que j'avais vu pendant la rencontre des rédactrices des Hauts-de-France. Certaines, en fait, se demandent, enfin, ont des doutes quant à leur capacité. C'est impressionnant, alors qu'elles en ont. Hein. Il y en avait, genre, je pense surtout à une fille qui avait été journaliste. Et pourtant, elle avait des doutes. C'est impressionnant, je trouve. Donc, je pense juste qu'il faut se fixer un objectif et ne pas regarder derrière, en fait. On a tous des doutes, mais il faut passer au-dessus. Tu passes au-dessus et tu y arriveras. Enfin, je pense hein, que c'est surtout les doutes et le trop-plein de questions qui bloquent les gens. Je pense que c'est ça.
Donc, complètement. Si on prend l'image du funambule, si tu regardes droit devant et que tu avances vers ton objectif, tu as moins de risques de tomber qu'en regardant en bas et autour de toi. Ou de s'arrêter c'est pour regarder ce qui se passe, quoi.
Non, mais c'est exactement ça, je pense. Et que, je pense aussi qu'en plus, je connais pas exactement la moyenne d'âge chez FRW, mais je pense qu'elle est, enfin, je pense que ça doit être dans la quarantaine.
Oui.
Chez les élèves. Et ces personnes, souvent, sont vraiment ancrées, tu sais, dans le salariat. C'est notamment aussi avec des familles qui viennent que du salariat. Et de ce fait-là, tu vois, elles ont du mal à sortir de leur cocon. Elles ont du mal à avoir, tu sais, l'esprit entrepreneurial au début, etc. Et ça se cultive, tout ça, c'est pas grave. Elles doutent, elles ont peur de ne pas en vivre, etc. C'est normal, mais ça les fait reculer au lieu d'avancer. Je pense qu'il faut vraiment mettre toutes les chances de ton côté et travailler d'arrache-pied au début s'il le faut. Hein.
Oui, c'est la peur de perdre la sécurité de l'emploi, la fameuse.
C'est ça.
Et c'est la prise de risque.
Oui, mais ça fait partie intégrante du mode de vie d'entrepreneur, malheureusement.
Et de la reconversion.
Tu peux pas y échapper.
Bon. Bon, après, tu peux te reconvertir dans le salariat, mais oui, c'est ouais, inhérent à la...
Bien sûr.
À la création d'entreprise, oui.
Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un problème, mais plutôt comme une opportunité. Moi, j'aime le risque, en fait. Maintenant, j'ai le goût du risque, j'aime essayer des nouvelles choses, j'ai toujours envie de faire plus et de découvrir plus. Je pense que ce sont des choses qui se cultivent.
Au niveau de la formation en ligne, est-ce que c'était la première fois, toi, que tu suivais une formation en e-learning?
Alors, personnellement, oui, mais j'en avais suivi quand je travaillais dans les banques, etc., pour la sécurité, des petites formations e-learning, des petits modules. Mais une vraie formation complète que j'ai achetée moi-même, non, c'était la toute première fois. Et j'ai adoré ça.
T'as adoré? Bon.
Oui, parce que j'avais déjà suivi, moi, à la fac, en troisième année, une année en distanciel 100%. Et j'avais majoré en distanciel. J'étais tellement fière. Et j'aime bien apprendre seule. Parce qu'en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais beaucoup de mal avec l'école plus jeune. J'aimais pas aller à l'école parce que j'aimais pas les modes d'enseignement. Moi, écoutez, j'y arrivais pas, en fait. Ça marchait pas. C'était pas les heures auxquelles j'étais productive. Alors, tu vois, moi, je suis productive entre 6h et 10h du matin, généralement. Donc, bon, l'école jusqu'à 6h, c'était la galère. Enfin, j'adore le e-learning. Et je ne passerai plus que par ça. Je ferai pas de présentiel. Alors, ça, c'est... Enfin, là, j'aimerais bien, en ce moment, me former un petit peu au gros hacking, etc., parce que ça m'intéresse, mais ce serait du e-learning, c'est sûr. Enfin, je trouve que c'est tellement facile. Tu te connectes à l'heure que tu veux, tu suis ta leçon, et comme les cours se débloquent au fur et à mesure, tu n'as pas l'impression d'apprendre. c'est naturel. L'apprentissage est naturel. Tu n'as pas l'impression de t'en mettre plein la tête, comme ce fut le cas à la fac de droit, avec nos millions de pages à apprendre. Donc, pour moi, ça a été vraiment un apprentissage génial, facile et super agréable parce qu'en fait, tout doucement, tu rentres dans une nouvelle profession. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte au début, mais c'est une toute nouvelle profession. C'est un, tout enfin, c'est un univers complètement nouveau. C'est inédit, en fait. Hein. Et tu l'apprends comme ça. Tu apprends un nouveau métier avec une facilité. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez déconcertant. Mais tellement, tellement, tellement agréable. L'investissement, enfin, valait tellement le coup. Aujourd'hui, je crois que ça a été ma meilleure décision de ma vie, quand même.
Waouh.
Ah oui, bah oui. Attends. Non, franchement, oui.
Alors, tu nous as parlé de growth hacking. Hacking, mm-hmm. Pardon. On va vulgariser. Moi qui suis une grande consommatrice de podcasts, ça me frustre quand il y a des mots que je ne comprends pas. Donc, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le growth hacking, s'il te plaît ?
Alors, je ne pourrais pas t'en dire grand-chose parce que je ne connais pas grand-chose. J'ai juste vu que c'était des techniques pour développer les entreprises. Alors, moi, quand j'ai vu développer la croissance des entreprises, vas-y, j'arrive, j'ai envie de voir ce que vous faites. J'aime beaucoup l'idée qu'avec du contenu et d'autres techniques, on peut accroître l'avenir d'une entreprise, en fait, son évolution, etc. Et moi, j'ai envie de contribuer à ça. C'est ce que je fais avec mes clients. Je fais beaucoup de conseils éditoriaux, conseils SEO, même parfois, ça arrive en réseaux sociaux, j'en fais aussi. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est j'adore la technique, hein, j'adore ce que je fais, mais j'aime beaucoup voir dans le futur ce que ça va donner, analyser les chiffres, voir si on arrive à évoluer et si on ajustait. Et si on ajoutait de telle sorte, est-ce qu'on va réussir à avoir une meilleure audience, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de contribuer à des beaux projets, en fait, tout simplement.
D'autres projets ? C'est un très beau projet, celui-ci. C'est, en fait, ce que tu veux faire, c'est de, en somme, hein, c'est de la stratégie d'entreprise. C'est marrant parce que moi, je me suis formée à la stratégie d'entreprise en 2021 puisque je viens d'avoir mon petit certificat. La stratégie d'entreprise, c'est passionnant et tu vas te régaler. Tu es faite pour ça, je pense.
Bah, j'espère le faire. Et sinon, notre projet, j'ai envie d'investir, commencer à investir, mais c'est aussi des domaines où il faut que j'apprenne, parce que la finance, ça n'a jamais été trop mon truc. Je commence à regarder aussi des analyses vulgarisées de la bourse. Alors, ça me donne mal à la tête, parce que déjà, moi, il faut savoir, j'aime pas la logique comptable. Alors, ça, tous les chiffres, ça me saoule. C'est un truc de dingue, j'aime pas ça. Mais j'apprends tout doucement, et j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on investit de correctement. Dans quoi il faut investir ? Quel type d'entreprise il faut privilégier ? Est-ce qu'il faudrait se tourner vers les investissements verts ? Tu vois, ce genre de choses, en fait. Donc, mais il faudrait que j'ai plus de temps pour pouvoir potasser tout ça.
Alors, dans ton temps libre, justement, tu fais quoi ?
Alors, qu'est-ce que je fais pendant... Je lis beaucoup, 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 beaucoup. J'ai un moindre rythme qu'avant. Avant, je lisais 4 livres par semaine. Maintenant, j'en lis un tous les 2 semaines environ. Je lis beaucoup, beaucoup de romans. J'aime beaucoup les histoires. J'ai toujours été passionnée par les histoires. Mais maintenant, je commence à lire aussi des livres qui te donnent du savoir. Je lis beaucoup de livres d'histoire. Alors là, d'histoire, ouais, Marie-Antoinette, etc. Là, qu'est-ce que j'ai lu là récemment ? Un livre sur l'écologie maritime. Là, je suis en train de lire le livre d'Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger des animaux. Donc, c'est sur le végétarisme. Je m'intéresse à peu près tout à ce niveau-là. Je lis juste pas de trucs romantiques, j'aime pas. À part ça, je lis beaucoup. Je fais de la canne rando avec mes filles, enfin avec mes chiens, pardon. C'est des formations de langage. Donc, c'est la canne rando, c'est une activité sportive en fait. T'es relié par un baudrier qui est fixé à ta taille. Et tu as des lignes de traits flexibles où tu rattaches tes chiens et ils te tirent. Donc on fait beaucoup beaucoup de kilomètres avec les filles quand je suis seule et que mon conjoint n'est pas là, parce que je prends les deux de ce fait là. Sinon je fais aussi du canicross, mais là il fait beaucoup trop chaud, donc je vais reprendre en septembre octobre quand je le fais que sous 14 degrés, sinon c'est impossible de tenir pour les chiens. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de la musculation aussi. En débutant, alors par contre, ça c'est un truc génial. Le sport, je suis pas la plus grande fan de sport du monde, mais alors la musculation, ça m'aide tellement à terminer ma journée, tu sais. Après le travail, j'y vais et hop, si j'ai eu un souci, tout s'envole en fait. Et c'est toujours pareil, c'est des sports de dépassement de soi, de performance, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me voir évoluer, tu vois. Par exemple, c'est bête, hein, mais si tu portes X poids tel jour, j'aime bien voir que j'augmente le mois suivant. Enfin, c'est tout bête, hein. Mais je trouve que la sensation, elle est extrêmement agréable. Et moi, j'oublie tout quand je vais à la salle, c'est vraiment bien. Et alors, attends, je réfléchis si je fais autre chose. Alors, cani rando, cani cross, lecture. Bon, j'écrivais à un moment, j'écrivais des histoires, pour être honnête. Et je n'ai pas poursuivi pour l'instant. Depuis que je me suis installée, j'écris tellement beaucoup que je n'ai plus le courage d'avoir l'écriture comme passion, plutôt au niveau des romans, des nouvelles. Avant, je le faisais beaucoup, mais maintenant, pour l'instant, c'est un petit peu mis de côté. Mais pour mes activités, en gros, c'est ça.
Tu as le temps d'avoir des amis?
Alors, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement entouré. Mais ça c'est ma personnalité, je suis comme ça. J'ai quelques excellentes copines, des amies que j'ai depuis des années, mais elles habitent pas par ici. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très social, je suis plutôt méfiante en général, et ici sur Boulogne-sur-Mer c'est très dur de se faire des copains et des copines. Je trouve que c'est super compliqué. Par contre chez nous, parce qu'à la base moi je suis de Cambrai-Douai, dans le Nord, ouais, j'ai mes amis, je les vois de temps en temps, mais chacun fait un petit peu, tu sais, chacun choisit un petit peu son chemin. Par exemple, une de mes meilleures copines, elle a passé un concours, elle s'en va dans une école, c'est dans le Sud, donc on se voit de temps en temps, mais quand on se voit on est content. Mais sinon c'est vrai que je suis pas très fan des événements, il y a plein de monde, etc. Ça, c'est un petit peu moi.
Julie, nous arrivons à la fin de cette interview. J'étais en très bonne compagnie avec toi. Est-ce que tu as des choses à partager avec les personnes qui nous écoutent?
Moi, j'ai juste un mot à leur dire, à tous ceux qui maîtrisent le français et qui aiment la rédaction, foncez. Franchement, c'est pas difficile. Foncez, ayez un peu de culot et vous allez avoir une vie très agréable ensuite. Comme moi.
Julie, pas du tout vantard.
Parce que le processus de reconversion, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est extrêmement lourd. Enfin, même psychologiquement, moi, j'ai trouvé que c'était super difficile de passer, tu sais, du statut de juriste au statut de rédacteur, parce que j'avais l'impression que je m'identifiais toujours comme une juriste et j'avais du mal à me séparer de cet intitulé-là. Et ça a été extrêmement compliqué. Et de ce fait-là, j'étais vraiment contente d'avoir mes binômes de formation mon trinôme de formation et ma coach, en fait, qui était d'un grand soutien, et mon conjoint, ma famille. Le soutien, c'est super important dans ce processus-là, je pense. Voilà.
Merci beaucoup, Julie, pour ta bonne humeur, pour ton franc-parler. Et à très vite, puisque de toute façon, on se côtoie à peu près quotidiennement.
C'est vrai. À bientôt, tout le monde.